Alors, bon, alors nous savons que vous reportez votre admiration sur quatre grands personnages. Citez-les-nous en nous expliquant le pourquoi de cette admiration.
Bien depuis ma très tendre enfance, un personnage que j'ai admiré n'appartient à l'Antiquité, naturellement, je n'admirais que l'Antiquité dans ce temps-là. C'est Alexandre le Grand. Ses dates, 356 à 323 avant Jésus-Christ. Ce que j'aimais en lui, c'était ce qu'on raconte de son aspect physique. Il paraît qu'il était blanc, qu'il avait un œil bleu et un œil bleu aussi, mais enfin un peu d'une autre couleur. Il n'avait pas exactement les yeux de la même couleur. Il était bien fait. Paraît-il très beau. Sa mère était très belle, Olympias. Et j'ai trouvé qu'avant ses conquêtes même, quand il a simplement s'est occupé des affaires de son père, Philippe, en Macédoine et autour de la Macédoine. J'ai lu dans la suite, pas tout de suite, pendant quand j'étais enfant, naturellement. C'est un livre qui n'est pas à être lu par des enfants. Et un livre de Marie Renaud, en anglais. Marie Renaud a un nom français parce qu'elle est descendante du huguenot français. Mais elle est anglaise. Et elle habite l'Afrique du Sud. Son livre sur Alexandre le Grand s'appelle Le feu du ciel. Et là-dedans, il est décrit très bien tout ce que Alexandre a fait quand il était enfant et adolescent. Le livre commence, il a 4 ans. Et il est avec sa mère et son père. Et il se promène, il a un serpent, sa mère. Elle prend part à des cultes bizarres, dont des cultes orphiques. Et il s'enroule un serpent autour de lui. Et son père n'aime pas ça. Ensuite, il grandit naturellement. Il était la coutume, c'était la coutume. Dans l'ancienne Macédoine, quand un enfant, surtout un enfant de roi ou d'homme important, naissait, n'est-ce pas? Il fallait qu'il ait, à un âge certain, un certain âge, une ceinture avec une épée. Et on ne lui donnait la ceinture et l'épée que quand il avait tué un sanglier avec le javelot et un homme à la guerre. Une guerre de ses parents ou une guerre de voisins qui voulaient bien accepter ses services. Il paraît qu'Alexandre a eu justement cette épreuve quand il était jeune. Et il a eu sa ceinture et son épée à 12 ans. La plupart l'avaient à 15 ans, à 16 ans. Lui, il l'a eu à 12 ans. Il a pris part à une de ces petites guerres de tribus qui existaient, qui étaient permanentes en Macédoine. Une bande, n'est-ce pas, dans une montagne, un réduit montagneux, contre une autre bande à un ou 2 kilomètres de là. C'est tout ça, c'est très bien raconté dans la vie d'Alexandre de Marie Renaud. Après, son père a fait des guerres, d'abord contre des tribus, nous dirions aujourd'hui les tribus des Balkans, entre la Macédoine, disons, et le Danube. Et ensuite, contre Athènes, contre les colonies d'Athènes, de la presqu'île de Chalcidique, en particulier Olynthe, Olynthe. Il y en avait d'autres. Il y avait, n'est-ce pas, Stagir, il y avait Amphipolis, il y avait plusieurs villes de fondation d'Athènes dans la presqu'île de Chalcidique. Commençons par les tribus. Il paraît qu'il aurait envoyé son fils, justement, commander son armée très jeune, 15 ans. Il avait déjà son épée et sa ceinture d'homme. Mais 15 ans, contre ses tribus, contre ses roitelets, n'est-ce pas, à demi-civilisés de la Macédoine, de des Balkans de cette époque, du Rhodope. Et il paraît qu'il a eu comme hôte, quand Alexandre était tout petit, un Thrace, un fils de roitelet de Thrace, qui est devenu l'ami d'Alexandre. Et qu'ils se sont jurés, étant enfants, ils avaient peut-être 10 ans l'un et l'autre, que l'un aiderait l'autre en cas de guerre. Et Alexandre fait savoir à son père qu'il a en effet été en contact avec ce garçon, qui est devenu maintenant le successeur de son père. Il ne règne pas encore, mais enfin, il est plus important. Tout le monde sait qu'il va être le successeur de son père. Et il lui apporte des contingents pour sa guerre. Les roitelets autour de la Macédoine disent tous, les dieux ont frappé Philippe de folie. Il a donné son armée à commander à un gamin de 15 ans. Il se trompait. Le gamin de 15 ans a avancé, avancé, avancé. Il les a battus les uns après les autres. Il a commencé jeune. Et son père s'écrie enfin à quelqu'un à qui il rapporte justement les exploits de son fils. Mais où va-t-il, jusqu'où va-t-il aller? Il va aller jusqu'à l'Ister. L'Ister, c'est le Danube. Imaginez le Danube dans ce temps-là. Qu'il devait être beau. Que l'Europe centrale devait être belle avec ses forêts. Et ses hommes, ses guerriers courageux, ces guerriers, pas d'usine, pas de technique, pas ce qu'on appelle cette dégoûtante civilisation des temps modernes. Rien de tout ça. Enfin. Ensuite, Alexandre a vaincu tous ces gens-là. Philippe s'occupe des villes grecques ou des colonies grecques de Chalcidique. Là aussi, son fils va à la guerre avec lui. Dans ce temps-là, les rois allaient à la guerre à la tête de leurs troupes. Et il y a avec lui, avec Alexandre dans ce temps-là, plusieurs autres fils d'hommes importants de la Macédoine. Il y a Harpalos, il y a, comment il s'appelle là, Ptolémée, le futur Ptolémée qui sera le futur roi d'Égypte. Ptolémée Lagos, et le fils de Ptolémée Lagos. Bon, tous ces gens-là, il y a Cassandre, le futur roi de la Macédoine. Et ils prennent part au siège d'Olynthe. Ils prennent part à la destruction d'Olynthe. Et dans le livre de Marie Renaud, qui est si beau et si vrai, si fidèle à l'Antiquité, il y a la vente comme esclave des 80 000 habitants d'Olynthe, qui sont des Grecs malheureusement. Autrefois, on ne prenait pas des Grecs comme esclaves, mais les modes changent, même dans l'Antiquité. Et alors, son père, le père d'Alexandre, lui dit, regarde-les à partir. C'est ça qu'on appelle la défaite. Toi, plus tard, évite-la. Malheur aux vaincus, il ne faut pas être vaincu. Moi, ça me choque évidemment beaucoup de voir 80 000 Grecs vendus comme esclaves. Toute la population d'Olynthe. Olynthe n'avait pas voulu se soumettre à la Macédoine, après tout, c'était son droit. Avec ma conception moderne, grecque, évidemment, mais moderne, je dis ça. Mais dans ce temps-là. Ensuite, Philippe, n'est-ce pas, fourre son nez dans les affaires de la Grèce elle-même, dans cette fameuse affaire la violation des territoires de l'Apollon de Delphes. Il combat contre le fossé, contre les Phocéens, pas les Phocéens d'Asie, il s'agit des Phocéens de Grèce. Et enfin, il est nommé membre de l'Amphictyonie. Il devient quelqu'un de beaucoup plus important qu'il n'était, plus macédonien qu'il était. Et avec ça, en ce temps-là, à Athènes, évidemment, Démosthène fulmine contre lui. Tandis qu'au contraire, Échine voudrait la paix entre les Athéniens et la Macédoine. Enfin, pour abréger une longue histoire, finalement, il envahit la Grèce. Philippe. Il envahit la Grèce et il va rencontrer à Chéronée, pas très loin de Thèbes. Chéronée, les Grecs réunis. C'est surtout les Thébains. Il y a ce qu'on appelle la Légion sacrée de Thèbes, le bataillon sacré. De jeunes gens qui sont liés d'amitié les uns aux autres, deux à deux. Et après la bataille de Chéronée, 338, Alexandre a 18 ans. 338 avant... Attendez, voir. Il est né en 356. 346. 36. Oui, 36, il a 20 ans. 338, oui, il aurait 18 ans. C'est ça. 338 avant Jésus-Christ. Après la bataille, et cette bataille est très bien organisée, il a le génie de Philippe dedans. Il y a aussi le génie d'Alexandre qui se montre pour la première fois. Et c'est vraiment lui qui gagne la bataille, avec son père. Il compte les corps du bataillon sacré de Thèbes. Il n'en manque pas un. Il s'en fait tuer jusqu'au dernier. La bataille de Chéronée est une défaite pour tous ceux qui veulent l'indépendance des États grecs et des villes grecques, comme elles étaient indépendantes dans l'Antiquité. Dans cette bataille de Chéronée, c'est vraiment le commencement de l'unification de la Grèce sous la Macédoine. D'un côté, c'est bien, mais on a pu dire, et je crois que c'est Victor Duruy, l'historien français du 19e siècle, qui l'a très bien dit, Philippe, en unifiant la Grèce, l'a tué. Il a tué l'ancien esprit des villes indépendantes. Athènes est restée un centre de culture, étant évidemment un centre d'art, tout ce que vous voudrez, mais ce n'était plus la ville libre qui était celle de toujours. Il n'y en avait aucune ville libre en Grèce après la conquête de Macédoine. Enfin, Alexandre, qui a 18 ans, il va visiter Athènes naturellement. Et Démosthène, le 30 septembre, je ne me rappelle plus de quelle date, c'est un peu plus tard, il s'empoisonne. Il s'empoisonne dans le temple de Poséidon. Il prend refuge au temple de Poséidon et puis on va le déloger de là. Alors il s'empoisonne. Il s'empoisonne avec son stylet. Il met du poison sur le bout du stylet et comme il a toujours l'habitude de mâchonner le stylet en écrivant, personne n'a fait attention à lui. Il est mort hors du temple. Il n'a jamais voulu voir, il ne voulait pas voir la Grèce sous les Macédoines. Il avait combattu toute sa vie contre ça. Alexandre devient à 20 ans chef après la mort de son père, car son père a été tué. Son père a été tué par un des grands de Macédoine, il s'appelait Pausanias. Il ne faut pas confondre avec les autres hommes qui s'appellent Pausanias, il y en a une flopée dans l'histoire grecque. Alors, il est mort. Alexandre lui succède. Il a 20 ans. Il vient à Corinthe se faire proclamer généralissime de tous les Grecs contre les Perses. Il va attaquer l'Empire perse. l'énorme empire perse qui s'étend de la mer Égée et de la Méditerranée orientale, de la Syrie jusqu'aux Indes. Une partie de l'Inde, une partie du Punjab était perse dans ce temps-là. Et il rencontre à Corinthe un homme extraordinaire, Diogène. Diogène, le philosophe cynique. On les appelait des cyniques parce que on les comparait à des chiens. Ils vivaient comme des chiens, disait-on. Diogène, selon la légende, vivait dans un tonneau. Il ne s'habillait presque pas, il en avait un peu. Il se nourrissait naturellement, mais très simplement. Et il était indépendant. Indépendant moralement. Il n'avait aucun désir. Alors, Alexandre le voit. Il fait soleil. Le soleil ardent de Grèce. Alexandre est planté devant lui. Et son ombre est sur Diogène. Alors, il lui demande, « Je suis généralissime de tous les Grecs contre les Perses. Nous partons demain ou la semaine prochaine. Aurais-tu un désir? Je l'exaucerai. Qu'est-ce que tu voudrais de moi ?» Et Diogène lui répond, « Ôte-toi de devant le soleil, que je vois le soleil. Retire-toi quelques mètres, à droite ou à gauche, que je vois le soleil. » C'est tout. Alexandre dit, si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. C'est-à-dire, l'indépendance complète ne se trouve que dans le renoncement à tout ou la possession de tout. Et il allait posséder tout puisqu'il allait conquérir l'Empire perse. Il aurait distribué, paraît-il, avant de partir, tout ce qu'il avait à ses amis. Et on lui dit, que gardes-tu pour toi? Il ne garde rien. Il dit, si, je garde l'espérance. Il part. Il part, il a devant lui une partie de l'énorme armée des Perses. Il a 30 000 hommes avec lui, pas plus. 30 000 Macédoniens. Et quelques Grecs des autres parties de la Grèce qui ont bien voulu le suivre. Il ne les a pas forcés à le suivre. Et il y a la bataille du Granique. Le Granique est un petit fleuve qui se jette dans la mer de Marmara. Oui, dans la mer de Marmara. Ou dans la mer Noire. Et si je fais des fautes de géographie, excusez-moi, je n'ai pas d'atlas, je n'ai pas de livre avec moi, je ne peux pas rafraîchir ma mémoire qui quelquefois fait des défauts. Au Granique, il a presque été tué. Alexandre. Il était toujours au premier rang de ses soldats. Ce n'était pas un général à la mode des temps futurs. Loin de là. Il a presque été tué. Et c'est un de ses guerriers, Clitos, qui a sauvé la vie. Je vous dis ça parce qu'on va devoir parler de Clitos un peu plus tard. Alors, voilà la première bataille. Avec ça, il conquiert une grande partie de la Perse. Darius III, Darius Codoman, roi de Perse, demande la paix. Il lui écrit. Il lui dit, je t'offre la moitié de mon empire, mais laisse-moi en paix. Et Alexandre lit la lettre. Devant son général, il a un général, qui est un très brave général, Parménion. Et Parménion lui dit, « Prince, acceptez, il vous donne la moitié de son empire qui est immense. Pourquoi n'acceptez-vous pas? J'accepterai, moi, si j'étais Alexandre. » Alexandre lui répond, « Moi aussi j'accepterai, si j'étais Parménion. Mais je suis Alexandre, je n'accepte pas. » Après cela, il y a, contre la Perse toujours, la bataille d'Issos. la deuxième grande bataille, la première est en 333 avant Jésus-Christ, la deuxième, je crois, est 332. Et puis après, comme il n'a pas de flotte, il lui faut conquérir les territoires qui sont en bord de la Méditerranée pour que la Perse ne soit pas secourue par des renforts venus des pays d'au-delà, par exemple venus de Carthage ou venus de je ne sais où. Il ne faut pas que la mer soit aux mains, puisse être aux mains d'autres que de l'Alexandre lui-même. Il conquiert donc la Syrie et ensuite l'Égypte. La Syrie, il conquiert Sidon et Tyr, c'est plus difficile à conquérir. Tyr est une île rattachée à la terre par une jetée. C'est difficile à assiéger. Il l'assiège quand même. Mais il y met le temps. Je crois qu'il met plusieurs mois. Sinon un an, ou plus davantage, à s'emparer de Tyr. Il est furieux parce que ça lui fait perdre le temps, ça lui fait perdre des ressources. Les Tyriens se défendent très bien. Il en fait vendre comme esclave, la majorité. Il en fait tuer tout le long de la jetée. Et il va plus loin. Tyr et conquise. Il conquiert la Palestine. Il va en Égypte. Il conquiert l'Égypte. L'Égypte qui était depuis 200 ans, depuis 525 avant Jésus-Christ, aux mains des Perses. Et je vais vous ouvrir une parenthèse parce que je trouve ça très intéressant. Je vais vous dire comment l'Égypte est tombée aux mains des Perses. C'était donc 200 ans ou davantage avant Alexandre. Nous sommes maintenant autour de 331 avant Jésus-Christ. Pas encore en 331. Et l'Égypte a été conquise en 525 par Cambyse. Cambyse, fils de Cyrus II, Cyrus le Grand, qui a envahi l'Égypte dans les années 500, les premières années du 6e siècle avant Jésus-Christ. Naturellement, pour prendre l'Égypte, quand on vient de l'Orient, il faut prendre la forteresse de Péluse, qui était défendue à l'époque par des Grecs, des Égyptiens, mais sous commandement grec. Les Égyptiens employaient beaucoup des mercenaires grecs. Et n'arrivait pas à prendre Péluse. Il n'y avait rien à faire. Les Égyptiens faisaient des sorties sous la direction des Grecs. Ils tuaient des soldats perses. On ne pouvait pas prendre Péluse. Quelqu'un a murmuré à l'oreille de Cambyse : si vous voulez prendre Péluse, je vous donne un conseil. Les chats, C-H-A-T, les chats, sont sacrés en Égypte. Dites à vos soldats d'attraper une centaine ou 200 chats. Mettez-les dans des paniers. Et puis avant la bataille, vous les lâchez. Vous les lâchez. Quand vous avez une sortie, vous n'avez qu'à les lâcher. Personne n'en fera de mal. Vous pouvez soignez-les bien. Ils se laisseront prendre. Ils sont tellement, tellement doux, tellement habitués à ne pas être malmenés, qu'ils ne se défendent pas. Vous les lâchez. Les Égyptiens sortent de Péluse. Ils ne tireront jamais une flèche dans le voisinage d'un chat, de peur de blesser ou de tuer ce chat. Ils préfèrent que 10 Perses ou 100 Perses soient épargnés plutôt que de risquer de tuer un chat ou de le blesser même pour pouvoir tirer. Vous avez Péluse. Et c'est ce que Cambyse a fait, paraît-il. C'est pour ne pas avoir voulu prendre le risque de tuer ou de blesser des bêtes sacrées à la déesse Bastet la déesse à tête de chat, qui les protégeait, que les Égyptiens ont accepté. D'ailleurs, il n'a pas été dur, cette domination. Ils ont accepté une domination qui a duré plus longtemps que la domination britannique aux Indes. 200 ans, à peu près. Pas très loin de 200 ans. Et Alexandre a délivré les Égyptiens de la domination perse. Et après lui, il y aura ses successeurs qui seront les maîtres de l'Égypte jusqu'à Cléopâtre, c'est-à-dire jusqu'à 31 avant Jésus-Christ. Parce que la bataille d'Axium, c'est 31. Bon. En Égypte, il y avait un sanctuaire très renommé, le sanctuaire de Zeus Amon, ou Jupiter Amon, une sorte de combinaison du nom grec et du nom égyptien d'un dieu, et ça se trouvait dans le désert, quelque part. Alexandre y est allé. Avant qu'il ne soit entré dans le temple, qui était un temple célèbre, les prêtres sont sortis et l'ont salué du titre de fils de Zeus. Fils de Zeus et d'Amon. C'est-à-dire engendré par un dieu, comme l'étaient d'ailleurs les pharaons. Tous les pharaons, même la pharaonne Hatshepsut, qui était une femme, elle n'a pas fait d'exception aux autres, tous étaient, naturellement, théoriquement, engendré par un dieu. Le dieu apparaissait à la femme du pharaon précédent sous la forme de son mari. Elle faisait son devoir d'épouse avec lui et elle avait un demi-dieu. C'était le pharaon, le suivant. Les Ptolémées d'Égypte, les Grecs qui ont gouverné l'Égypte après Alexandre, ont suivi cette coutume. Et ils étaient, leurs enfants étaient considérés comme des pharaons l'étaient avant par les Égyptiens, comme des demi-dieux, d'origine divine. Alexandre était d'origine divine, d'ailleurs, selon les Égyptiens. Hein. Et les Perses aussi, ils n'avaient aucune hésitation à considérer leur roi comme des demi-dieux ou des dieux même. Les Grecs, c'était pas ça. Et il y a